Flavius Joseph, général malgré lui, par Roland Hoguet. Et aujourd'hui, donc, premier volet, le siège de Jacopata avec Mireille Hadas-Lebel.
Mireille Hadas-Lebel, pour parler de Flavius Joseph, vous êtes bien placée puisque vous avez publié il y a quelque temps chez Fayard un Flavius Joseph, le juif de Rome, et que vous venez de sortir aux éditions du CERF dans la collection Patrimoine Judaïsme, Jérusalem contre Rome, et vous me disiez hors micro que ce second livre avait pour thème l'image de Rome initialement. Flavius Joseph est quand même relativement connu en Occident, vous nous expliquerez pourquoi, mais je crois qu'il faudrait d'abord commencer quand même par présenter le personnage, sa famille, ses origines, c'est très important dans sa vie. Il appartient, je crois, à ce qu'on peut appeler l'aristocratie, mais enfin plus précisément d'une famille de prêtres.
Oui, Flavius Joseph appartient à une famille de prêtres de Jérusalem et tout le destinait à être prêtre lui-même. Il appartenait à une famille aisée, même peut-être plus que cela. Peut-être a-t-il rêvé de jouer un rôle politique dans son pays. Et puis, le destin en a voulu tout à fait autrement, puisque si nous le connaissons, nous le connaissons surtout comme historien. Et historien d'une période qui concerne à la fois les juifs et les chrétiens, puisqu'il s'agit du premier siècle de l'ère chrétienne. Évidemment, il a écrit sur d'autres périodes aussi, mais c'est cela qui a retenu le plus l'attention.
Les antiquités judaïques, on en dira peut-être
un mot. On en dira peut-être un mot. Mais justement, vous disiez qu'il est connu. Je me suis aperçue qu'on devrait peut-être parler au passé, parce qu'il était connu dans des générations antérieures. Vous savez qu'il fut un temps en Europe où tout le monde avait un Flavius Joseph dans sa bibliothèque. De nos jours, hélas, ce n'est plus du tout le cas. Et dans les jeunes générations, on ne sait vraiment plus du tout qui est Flavius Joseph.
Il y avait un Flavius Joseph et la Bible.
Et la Bible.
Alors, on va peut-être revenir au personnage. Donc, c'est un jeune homme excessivement brillant, si j'ai bien compris.
Il est excessivement brillant et comme il n'est pas modeste non plus, il se présente comme tel. Effectivement, il fait des études où il se distingue. Il se présente lui-même exactement comme on voit Jésus dans les évangiles, consulté par les docteurs. Lui-même, donc, est consulté à l'âge de 12 ou 13 ans par les docteurs de la loi. Et c'est lui qui nous le raconte. Et puis, il nous dit également qu'il a fait une sorte de stage dans les différents courants du judaïsme de l'époque, parce qu'il ne faut pas du tout imaginer le judaïsme comme une religion monolithique, comme certains veulent le voir aujourd'hui. Au contraire, il y avait des courants très variés, qui étaient les pharisiens, les sadducéens et les esséniens, plus difficiles à approcher, et que Joseph a connu de près, dont il nous donne une description très détaillée.
Il semble qu'il ait eu de la sympathie plutôt pour les pharisiens.
Alors, c'est ce qu'il nous dit lui-même. Après avoir fait cette tournée, où il a quand même été attiré par les Esséniens, c'est certain, mais il n'a pas pu s'astreindre à l'ascèse que représentait la vie des Esséniens, il a opté pour le courant pharisien, qui d'ailleurs était le courant majoritaire à cette époque-là. C'était le plus populaire parmi le peuple.
Alors, censé représenter la tradition, le courant pharisien, comment peut-on le définir ?
C'était la tradition, mais non, vous savez, on a dit beaucoup de mal des pharisiens, et puis dans les évangiles, évidemment, on ne les présente pas sous un jour très favorable, mais en vérité, ils représentaient l'innovation, parce que les sadducéens s'en tenaient véritablement à la lettre de la loi, et les pharisiens, depuis deux siècles environ, avait introduit des éléments nouveaux, peut-être y a-t-il des influences étrangères, bon, mais qu'il ne reconnaissait pas expressément, notamment l'idée de la vie future, des récompenses et des châtiments après la mort, tout ça a été quelque chose qui rendait très populaire le courant pharisien. Également, c'est parmi eux que se recrutaient les meilleurs connaisseurs de la Bible, les grands exégètes, et ils attiraient des foules.
Il existe aussi, Mireille Hadas-Lebel, ce que vous appelez la quatrième philosophie, et qui est importante pour la suite des événements, je crois.
Bien, alors ce n'est pas moi qui l'appelle la quatrième philosophie, c'est Flavius Joseph, parce que s'adressant à un public de langue grecque, il veut présenter ses courants de judaïsme en termes grecs, donc il les appelle philosophie. La quatrième, c'est la plus récente. Qui dit récent, d'ailleurs, dit révolutionnaire, et utilise un terme péjoratif à l'époque. Ce n'est pas bon dans la civilisation grecque ou méditerranéenne orientale de cette époque-là, d'être nouveau. Donc cette quatrième philosophie, elle a une date de naissance extrêmement précise. C'est l'an 6 de l'ère chrétienne. C'est-à-dire le moment où les Juifs, lassés de leur roi, il s'agissait d'Archélaüs, le fils d'Hérode. Hérode avait lui-même laissé un très mauvais souvenir et Archélaüs avait été un roi extrêmement cruel. Donc les Juifs réussissent à obtenir la déposition de ce roi. Ils le demandent à Auguste. Et à ce moment-là, Auguste envoie sur place un gouverneur. Et certains prennent conscience que leur indépendance est bel et bien terminée. Et sinon prennent les armes, du moins lancent des mots d'ordre de révolte contre Rome. Donc cette quatrième philosophie, en fait, c'est quelque chose qui est à la fois religieux et politique. Politique nationaliste hostile aux Romains. Religieux, il suivait en gros les pharisiens, mais probablement, et cela Joseph ne nous le dit qu'à mot couvert, il devait avoir une certaine interprétation de la vision de Daniel, annonçant qu'il y aurait 4 empires successifs, tous plus mauvais les uns que les autres, et au terme desquels viendrait l'ère messianique. Donc cette quatrième philosophie probablement identifie le quatrième empire, l'empire du mal, à Rome, et c'est pour cela qu'elle décide de se révolter contre les Romains pour hâter la venue des temps messianiques.
Alors, Rome étant le dernier stade avant la Jérusalem céleste,
avant en somme. La Jérusalem céleste. Mmh. Et Joseph les accuse nommément d'être les responsables des maux qui sévirent plus tard, c'est sa propre formule, c'est-à-dire de la guerre qui couve pendant tout ce premier siècle et qui finit par éclater 60 ans plus tard, en 66.
Alors, on peut peut-être revenir un peu à la genèse de Joseph. Il y a 2 épisodes, un séjour au désert, qui est sans doute quelque chose d'assez traditionnel, et puis un séjour à Rome, qui là nous rappelle le voyage de Philon, fait d'ailleurs en d'autres circonstances.
Tout à fait. En fait, le séjour au désert peut nous étonner rétrospectivement lorsqu'on connaît la suite de la vie de Joseph. Voilà donc Joseph qui nous dit qu'il a séjourné 3 ans au désert. C'est un mystique. En fait, nous verrons que pas du tout. Ce n'est pas du tout un mystique. C'est quelqu'un de très pragmatique. Mais ensuite, ses parents l'ont rappelé à Jérusalem. Et là, il a dû adopter un tout autre mode de vie, le mode de vie d'un aristocrate de son temps, qui, sachant qu'il aurait affaire aux autorités romaines notamment, a dû apprendre le grec, ce qui était assez exceptionnel à l'époque et qui supposait donc une classe sociale aisée. Et c'est sans doute sa connaissance du grec qui lui a valu d'être envoyé à 26 ans en mission à Rome pour libérer des prêtres qui avaient été emprisonnés là-bas. 26 ans, ça nous paraît jeune maintenant, ça paraissait encore plus jeune dans l'Antiquité pour une mission de cette importance. Songez qu'ambassadeur en grec se dit sur une racine qui signifie ancien, vieillard. Donc Joseph, à 26 ans, arrive à Rome, découvre Rome, réussit dans sa mission, s'aperçoit qu'il a beaucoup d'entre-gens, qu'il a beaucoup d'éloquence, qu'il réussit à convaincre ses interlocuteurs, notamment Poppée, la femme de Néron. Et il revient donc fier de lui, très certainement, mission accomplie et conscient de la grandeur de Rome. Or, c'est juste le moment où ses concitoyens ont décidé de prendre les armes contre la plus grande puissance du monde.
Alors, se place ici un des épisodes, enfin le premier épisode et le dernier d'ailleurs, de la vie politique de Flavius Joseph, c'est qu'il est nommé gouverneur en Galilée.
Oui, il est nommé gouverneur général de la Galilée, c'est-à-dire de la région nord, celle qui devait la première recevoir l'assaut romain, puisqu'il était évident que les Romains arriveraient par le nord, d'une part parce qu'ils tenaient la province de Syrie avec capitale Antioche qui était au nord, d'autre part parce que leur capitale locale était Césarée, donc ils avaient toutes les raisons d'attaquer la Galilée en premier avant de s'en prendre à Jérusalem. Et voilà donc Joseph, qui ne s'appelle pas encore Flavius, qui est chargé de défendre cette région et qui l'accepte. Alors, étant donné ce que nous venons de dire, nous comprenons qu'il n'était peut-être pas très très convaincu qu'il fallait faire cette guerre. Et pourtant, il l'a fait. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi il l'a fait, puis finalement je me dis qu'il y a une raison extrêmement humaine, qui est l'ambition, qui est qu'à 29 ans, quand on vous propose une responsabilité de cet ordre, on n'a peut-être pas toujours la lucidité, le courage de la refuser. Et donc le voilà qui s'engage dans une affaire dont lui-même ne voit pas le bout, sans que ça se terminera très mal. Donc il accomplit sa mission avec très peu de conviction.
Il a été nommé grâce à des appuis.
Bien sûr, parce que sa famille était extrêmement connue, et comme il n'avait pas de prouesse militaire particulière à son actif, je suppose que ce sont uniquement ses origines aristocratiques qui lui ont valu ce commandement.
Et donc, en tant que gouverneur, il commence déjà, il y a la menace romaine qui va se préciser, mais il semble qu'il se heurte aussi dans son gouvernement à tout un tas d'oppositions, d'inspirations diverses.
Oui, et nous ne sommes pas très très bien éclairés en fait sur ce qui s'est passé en Galilée, bien que nous ayons deux versions, ou justement parce que nous avons deux versions de sa mission en Galilée, à la fois dans son récit de la guerre et à la fois dans une autobiographie qu'il a écrite vers la fin de son existence. Alors, le but de la mission lui-même n'est pas très clair. Ensuite, il nous parle d'ennemis qu'il vilipende tant et plus, et qui, semble-t-il, étaient eux des nationalistes qui véritablement voulaient combattre les Romains, et qui d'ailleurs demandent contre lui une commission d'enquête à Jérusalem. Et là, son père est mis au courant de cette commission d'enquête, il l'avertit à temps, mais néanmoins la commission est envoyée, et Joseph a failli périr à plusieurs reprises de la main de ses compatriotes.
Et qui lui reproche d'être trop tiède.
Peut-être qu'il lui reproche d'être trop tiède, probablement il devait avoir aussi quelques sympathies pour le roi Agrippa II, qui était un lointain descendant d'Hérode, qui ne régnait pas sur la Judée à proprement parler, mais sur ce qui est le Golan et une partie de la Syrie à l'heure actuelle, et qui, lui, était un roi vassal des Romains qui était obligé de combattre à leur côté. Donc, lui, Joseph, n'a visiblement pas envie de prendre les armes contre ce roi, et c'est une de ses missions.
Alors, contre les Romains, il ne se presse pas.
Il ne se presse pas, mais au bout d'un certain nombre de mois, il est bel et bien obligé de les affronter. Et ça se passe dans une forteresse dont le nom déformé en grec est Jotapata. Donc là, Joseph se trouve enfermé dans cette citadelle, et le général qui la siège n'est autre que Vespasien, un vieux général que Néron, voyant ses armées battu dans un premier temps par les Juifs, parce que effectivement, plein de zèle, ils avaient réussi à renverser, mais du côté de Jérusalem, à tailler en pièces une armée romaine commandée par le gouverneur de Syrie.
Cestius.
Donc, à ce moment-là, Néron avait décidé d'envoyer son meilleur général, quelqu'un qui n'aimait pas beaucoup d'ailleurs, mais dont il savait apprécier la valeur militaire, ce qui prouve que Néron n'était pas du tout fou. En l'occurrence, il a vraiment fait le bon choix pour Rome. Il a envoyé Vespasien.
Alors, siège extrêmement dur.
Siège terrible, décrit avec beaucoup de détails par Joseph, qui décrit d'ailleurs nombre d'autres sièges encore après cela, même ceux où il n'a pas été véritablement acteur. Siège terrible parce que les Romains disposent de machines inouïes pour ces orientaux que sont les Juifs. Eux n'ont pas la discipline militaire, ils n'ont pas les corps de génie qui sont capables d'arraser des montagnes, de construire des ponts en un rien de temps, de construire des tours d'assaut. Ils n'ont pas les béliers, ils n'ont pas les catapultes, les balistes, etc. Tout cet armement qui les effraie dès qu'ils le voient approcher.
Dont Joseph avait fort bien compris l'importance et le caractère, disons, quasiment invincible en définitive. Oui,
d'ailleurs,
c'est pourquoi
Joseph nous donne pour cette époque la meilleure description de l'armée romaine.
Comme Polybe,
un petit peu plus tôt. Et Polybe qui appartenait lui aussi à une nation vaincue par Rome.
Alors, il a conscience que c'est une machine que les Juifs n'ont pas les moyens de vaincre, quel que soit par ailleurs l'héroïsme dont certains peuvent faire.
Et l'héroïsme est réel.
Alors, cet héroïsme à Jotapata, on le trouve quand même.
Alors, cet héroïsme, c'est l'héroïsme de tous. Ils sont tous prêts à mourir plutôt que de se rendre, mais il n'y en a qu'un qui n'est pas prêt à le faire, c'est Joseph, et il nous le montre dans cet épisode extraordinaire qu'il raconte, comment au terme du siège de Jotapata, il se retrouve avec 40 notables de la cité réfugiés au fond d'une grotte invisible de l'extérieur. Au bout de quelque temps, en interrogeant une femme, les Romains arrivent à savoir qu'il y a des gens cachés là, ils les somment de sortir. Les autres juifs réfugiés dans la caverne avec Joseph n'entendent pas du tout se rendre. Ils sont tous prêts à se donner la mort et ils estiment que Joseph doit donner l'exemple parce qu'il est le général. Mais Joseph n'est pas du tout prêt. Alors il leur fait d'abord un long discours très théorique, probablement reconstitué après d'ailleurs, contre le suicide. Et puis, comme il s'aperçoit que les autres comprennent très bien qu'il développe ses arguments parce que lui-même n'a pas envie de donner l'exemple, eh bien, il est quand même sommé de se donner la mort par les autres. Et à ce moment-là, il a un dernier sursaut, une dernière ruse, parce qu'il recourt très fréquemment à la ruse. Il propose un tirage au sort. Parce que, dit-il, on n'a pas le droit de se suicider, mais si le numéro 2 tiré au sort donne la mort au numéro 1 et ainsi de suite, peut-être qu'à ce moment-là, le péché sera moins grand. Et nul n'a l'air de s'étonner, ou peut-être nul ne s'aperçoit que dans ce tirage au sort, c'est Joseph qui tire le dernier numéro. Et donc voilà comment Joseph réussit à survivre à ses compatriotes.
Deux livres donc à lire de vous, Mireille Hadas-Lebel, Jérusalem contre Rome aux éditions du CERF et Flavius Joseph chez Fayard. Je rappelle par ailleurs que La guerre des Juifs de Flavius Joseph est publiée aux éditions de Minuit avec une très longue introduction de Pierre Vidal-Naquet intitulée Du bon usage de la trahison.
Joseph, général malgré lui, proposé par Roland Auguet. Ce soir, troisième volet, ni romain ni grec, avec André Paul.
André Paul, nous vous devons plusieurs ouvrages qui touchent à la période qui intéresse Flavius Joseph, de plus ou moins près d'ailleurs, dont Le monde des Juifs à l'heure de Jésus, c'est une histoire politique, et Le judaïsme ancien et la Bible. Or, dans ce dernier livre, Flavius Joseph revient assez régulièrement. On a le sentiment que c'est un personnage auquel vous attachez une importance assez grande et que par ailleurs vous donnez de lui une image qui n'est pas une image absolument conforme à ce que l'on a l'habitude de rencontrer. Et en particulier, vous nous dites que Flavius Joseph n'est pas plus pro-romain politiquement qu'il n'est grec culturellement. Alors ce sont deux formules d'ailleurs différentes qui demandent chacune, je crois, un commentaire.
Oui, c'est un paradoxe que cette formule, mais je la résume en ceci, qui est la pointe des deux éléments paradoxeux, c'est-à-dire que Joseph, c'est un vrai juif. D'ailleurs, je parle toujours de Joseph le juif. Alors, je précise tout de suite que, à l'époque, Joseph n'avait pas le choix, puisque les Romains étaient les maîtres du monde. Ce n'était pas être pro-romain que donner acte à l'ensemble de l'ocuménée, c'est-à-dire de l'orbisterarum du monde habité de l'époque, que ceux-ci étaient vraiment dominés par Rome. D'ailleurs, je cite Joseph, qui écrit lui-même que les Romains dominent le monde entier, et la fortune, c'est un mot tuqué, un grec tiqué, ou tiché, qui était une grande place chez lui, la fortune se met de leur côté, du côté des Romains, et Dieu, qui fait circuler l'empire d'une nation à l'autre, est maintenant en Italie. Or, si Dieu est en Italie, effectivement, Joseph l'affirme lui-même, ce n'est pas être pro-romain que lui, qui est un citoyen du monde méditerranéen, et pas sur le marché qui écrit à Rome chez les Romains, ce n'est pas être pro-romain, n'est-ce pas, que de prendre la mesure et toute la profondeur objective de cette situation.
Autrement dit, vous évacuez tous les aspects événementiels, circonstanciels, pour vous attacher au fond de l'œuvre de Joseph. Et le fond de cette œuvre touche évidemment à la diaspora, et en particulier, bien sûr, à la diaspora à Rome, puisque c'est là qu'il vit.
Oui, je crois que je dirais tout de suite qu'il y a une continuité fondamentale dans la vie de Joseph, et j'allais dire dans l'œuvre de Joseph. Il a toujours été un juif, judéen d'origine, de famille sacerdotale, et luttant toujours pour la légitimation et l'identification de sa nation juive, où qu'il fût. Il s'est trouvé, n'est-ce pas, naître en Judée, à Jérusalem. Il s'est trouvé lui-même exercer des fonctions diplomatiques tout jeune, à l'âge de 18 ans, à Rome. Ce qui fait d'ailleurs qu'il devait manier le grec, peut-être pas très virtuosité, mais je pense qu'il devait parler grec suffisamment pour pouvoir exercer ses fonctions diplomatiques qu'on lui avait confiées de Jérusalem, n'est-ce pas, et ceci tout jeune. N'oublions pas qu'il a vécu en Galilée comme général en chef également, que la Galilée était un territoire de Palestine très hellénisé à l'époque, où la langue était grecque, était celle des affaires, celle de la circulation économique et celle de la culture également.
Si vous dites qu'il n'est pas culturellement grec, c'est un paradoxe, alors, une fois de plus.
Oui, c'est un paradoxe, oui et non, parce que Joseph aussi n'avait pas le choix. De même qu'en politique, les Romains étaient les maîtres, et si Dieu était à l'Italie, donc il fallait être avec Dieu, du côté de Dieu, n'est-ce pas ? Et il le dit lui-même, et du côté de la fortune, de la pronoia, pour employer son vocabulaire, qui est grec, n'est-ce pas ? Mais du côté de la langue, je dirais que c'est la même chose. Et c'est pour ça que Joseph a été un juif judéen en Judée, et il a été un juif de diaspora en Rome, n'est-ce pas ? Alors là, effectivement, quel type de juif de diaspora a-t-il été ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Quelle était la situation de Rome à l'époque ? Est-ce qu'il est vraiment une diaspora romaine représentative ? Que faisait-elle ? Qu'avait-elle produit ? Comment elle-même se justifiait-elle ? Etc., etc. Et comment situer Joseph lui-même ?
Oui, alors ce sont ces problèmes qu'il faudra aborder, parce que ce sont ceux, justement, qu'on n'aborde pas souvent.
Il faut savoir deux choses. Joseph était allé à Rome une première fois sous Néron, mais il y est revenu définitivement, il s'y est implanté en 71. N'est-ce pas ? Il était tout jeune, il avait une vingtaine d'années, 22, 23 ans, ça va 24 peut-être. Bien. Alors Rome comptait des juifs dans un nombre, disons, respectable quand même, mais ces juifs, premièrement, étaient éparpillés. On les trouvait surtout dans le Transtévère, dans des petites communautés qui s'appelaient d'ailleurs des paroisses, des synagogues, n'est-ce pas, et où ils vivaient des artisanats. Et on sait par les catacombes juives de l'époque, par l'archéologie surtout, ou l'épigraphie, on sait que ces juifs étaient de petite extraction. On sait par exemple par les fautes d'orthographe qu'ils faisaient sur les stèles mortuaires, entre autres choses. On sait que leur culture n'était pas très élevée, et d'autre part que l'élaboration, disons, doctrinale du judaïsme qui était le leur était modeste également. Effectivement, ils avaient une croyance assez pâle dans la résurrection, ceci nous le savons par les textes figurant sur les stèles mortuaires dont j'ai parlé tout de suite. On sait également qu'ils pratiquaient la loi de Moïse, mais tout ça était flou, et ils n'avaient pas surtout de corpus littéraire de référence comme il y en avait avec la Torah de Moïse hébraïque ou araméenne, déjà peut-être fragmentairement en Judée, ou comme en avaient les Juifs d'Alexandrie de longue date dans la traduction grecque des Septante, et toute une immense littérature extrêmement robuste culturellement et littérairement que les Juifs avaient produite à la suite de la Septante, n'est-ce pas ? Donc ils étaient pauvres culturellement, socialement ils étaient assez disséminés dans petites communautés, il leur manquait cet outil, cet équipement culturel, à la fois pour se situer par rapport à eux, s'identifier, se reconnaître, pour pouvoir perdurer, produire eux-mêmes leurs outils culturels de légitimation et d'identification, et en même temps, par rapport à Rome et à la société de l'époque, pour pouvoir exister dans une relation d'intégration relative, je dirais, mais en même temps qui permettent, par leur constitution propre, la Torah de Moïse traduite et cohérente par rapport à la culture ambiante, comme l'avaient fait, n'est-ce pas, les Juifs d'Alexandrie, pour pouvoir situer par rapport aux autres. Et en l'occurrence, c'était les Romains de culture et de langue grecque de l'époque. Bon, ça, c'est une première chose.
Voulez-vous dire alors que Joseph a joué un rôle dans ce sens, André Paul ?
Je crois que Joseph a joué un rôle très fort dans ce sens. Et je pense que son œuvre, l'œuvre de Joseph, est une façon, effectivement, est-ce qu'il l'a délibérément voulu ainsi, mais de fait, il a apporté, non pas cette communauté juive, car on ne peut pas dire que c'était une communauté juive, mais enfin à ces éléments de communauté juive pauvre culturellement, pâle doctrinalement, dispersée, éparpillée, il leur a apporté ce qui leur manquait, ce que représentait par exemple pour Alexandrie la Torah de Moïse traduite en grec, avec toute cette énorme littérature qui est née à la suite avec la lettre d'Aristée, toutes les œuvres des historiens, des philosophes juifs de langue grecque. Je pense que Joseph a représenté à Rome l'équivalent, l'homologue, qu'il a apporté à cette communauté pour lui donner son équipe développement, d'auto-reconnaissance et de fonction de reconnaissance par les autres, c'est-à-dire par la communauté culturelle de Rome, pour qu'elle existe elle-même dans cette communauté, avec sa charte propre, ses canons, ses éléments culturels, pour qu'on puisse la distinguer et en même temps la respecter. Je crois que la fonction objective de l'œuvre de Joseph dans cette communauté juive est celle-ci.
Vous annonciez un second point.
Alors, oui, à Rome, il y avait des chrétiens à ce moment-là. Nous oublions que, nous le savons d'ailleurs, je le rappelle, que saint Paul a écrit l'épître aux Romains en 54, c'est-à-dire 16-17 ans avant que Joseph ne s'implante à Rome. Et si saint Paul a été capable d'écrire en 53-54 une lettre aussi longue, aussi précise doctrinalement, aussi affinée dans le débat qu'elle engage, n'est-ce pas, sur un certain nombre de points fondamentaux concernant l'héritage juif dans ce qu'il avait de plus profond et de plus définitif, je pense que la communauté juive, je dis bien juive, mais qui se reconnaissait comme chrétienne déjà, mais qui était nonobstant juive, élargie à des non-juifs, c'est évident, dans un prosélytisme qui cette fois-ci trouvait tous ces éléments vigoureux d'exercice et d'épanouissement, chose qui se vérifie assez peu dans le judaïsme lui-même, mais dans le christianisme, il y a eu cette fonction prosélytique, n'est-ce pas, qui a pu trouver son aliment, mais il y avait des juifs chrétiens extrêmement, à ce moment-là, soudés et qui formaient une vraie communauté. Et la preuve, saint Paul romain désigne cette communauté d'une façon précise, extrêmement forte et je crois irréfutable. Et Joseph a trouvé lui-même cette communauté à Rome. Ce qui veut dire qu'il y avait une double question qui lui était posée par rapport à l'identité et à la pertinence et à la même, j'allais dire, aux espoirs de durée. Ou de perdurer de sa communauté nationale, qui était la faiblesse des Juifs de Rome, d'une part, et d'autre part, le fait qu'ils étaient compromis dans leur identité même par cette déviance et cette organisation nouvelle d'un groupe communautaire juif qui se disait chrétien. Et c'était un grave danger.
Connaît-on alors sa position précise à l'égard des chrétiens, puisqu'on sait qu'il y a eu dans la guerre des Juifs sans doute un passage intrapolé, si je puis dire, où il fait mention du Christ, etc., et la question a l'air bien compliquée.
Vous faites allusion à ce qu'on appelle le testimonium flavianum, c'est-à-dire que le témoignage de Joseph sur le Christ, que l'on trouve, je précise, dans les antiquités juives, dans la guerre des Juifs. Évidemment, c'est un passage célèbre qui a fait couler beaucoup d'encre, hein, et il nous vient par le canal de la littérature chrétienne. On l'identifie, on le repère dans l'œuvre de Flavius Joseph depuis Eusèbe de Césarée. Et ensuite, nous avons de ce texte où Joseph dit que les chrétiens croyaient en Jésus-Christ ressuscité, qu'il faisait des miracles, qu'il y avait des apôtres, etc., où c'est une dizaine de lignes seulement. Et ce texte a cheminé lui-même tout seul, hein, comme un senton, indépendamment d'un ensemble. Nous le retrouvons chez saint Jérôme, on le retrouve dans une variante arabe au Xe siècle, d'ailleurs plus proche de sa purification, je dirais, critique qui en a été faite par la suite. Bon, aussi bien que c'est assez difficile de se retrouver et de reconstituer, comme ont essayé de le faire un certain nombre de savants, d'ailleurs avec talent, hein, de reconstituer un texte primitif, je crois que la chose n'est pas là, disons. Mais enfin, il y a un fait qu'on ne saura jamais si ce texte a été écrit ou non par Joseph, ou si ce sont des chrétiens pour vraiment pousser jusqu'au bout le baptême chrétien de l'œuvre de Joseph, car ne l'oublions pas, ce sont les chrétiens qui ont sauvé l'œuvre de Joseph, comme ils ont sauvé celle de Philon d'Alexandrie d'ailleurs, pour pousser jusqu'au bout ce baptême, qui lui ont imputé ces témoignages sur le Christ, effectivement. Mais nulle part ailleurs, il ne parle du Christ ni du christianisme, c'est vrai. Par contre, ce qui est extrêmement important, et c'est un travail que j'ai amorcé, sur lequel j'ai fait un certain nombre de publications déjà, c'est de voir quels sont des repères dans toute l'œuvre de Joseph, justement de cette défense que lui-même a opérée vis-à-vis de ce que j'appelais tout à l'heure une déviance, ou la constitution sur fond d'une misère sociale et culturelle qui était celle des Juifs restés dans le judaïsme, constitution cette fois-ci organique, est extrêmement puissante et forte et motivée, produisant déjà une toute littérature de ces juifs, s'élargissant à des non-juifs qui s'appelaient déjà communauté chrétienne. N'oublions pas que Clément de Rome, ou l'auteur de la lettre de Clément de Rome, était contemporain des antiquités juives de Joseph. Et cette pièce, cette encyclique qui est partie de Rome et qui a été envoyée aux églises, n'est-ce pas, montre bien qu'à Rome, on était capable, chez ces chrétiens, n'est-ce pas, qui compromettait l'existence même de la communauté juive, on était capable de produire ce que le judaïsme de diaspora de Rome n'avait jamais été capable de produire. Et Joseph ripostait par une œuvre robuste et solide. N'est-ce pas. Et dans ce sens, on peut repérer, enfin, et je m'y suis livré autant que j'ai pu par un certain nombre de choses, on peut repérer des éléments que j'appelle, d'une façon excessive, hein, que j'appelle antichrétiens chez Joseph. On peut en énoncer un certain nombre.
Lesquels précisément ?
Écoutez, j'ai fait tout un travail sur le thème de l'alliance. C'est le premier que j'ai eu. Faisant un enseignement où j'expliquais les premiers chapitres du livre premier des Antiquités juives, je suis arrivé à Noé et à l'Alliance. Vous savez que dans l'Ancien Testament, dans la Bible, n'est-ce pas, le thème de l'Alliance est fondamental, et dans le Nouveau Testament aussi. Bon, c'est à partir du déluge, à la fin du déluge, et que Dieu fait alliance avec Noé. Le terme de berit, en hébreu, traduit en grec diatéke, intervient très formellement dans l'institution de l'alliance, avec pour signe l'arc-en-ciel avec Noé. Ce même thème, vous le retrouvez avec Abraham au chapitre 15e et 17e de la Genèse, n'est-ce pas ? Dieu fait alliance avec Abraham, et le signe, cette fois-ci, puisque c'est un signe davantage ethnique, disons, biologique, d'une certaine façon, une signature corporelle, c'est celui de la circoncision. Bon, troisième passage de l'Ancien Testament, où vous avez le thème de l'alliance comme fondamental, c'est la révélation au Sinaï, Exode 24, à Moïse. D'où alors l'alliance qui est signifiée par les tables de la loi. Et nous trouvons chaque fois ce terme berit traduit par diatéke. Bon. Or, si vous prenez l'œuvre de Joseph, qui dans les 11 des 20 livres qui constituent les Antiquités juives suit ce que nous appelons l'Ancien Testament dans ses livres historiques. Comme il fait une histoire, il ne fait pas ensuite un démarquage ou une paraphrase des prophètes. Une disposition qui fait qu'on lègue à ses héritiers les biens que l'on possède.
Donc il efface le sens de la Bible, alors pourquoi ?
Mais c'est-à-dire, non seulement il a effacé le mot, dans le sens qu'il a pris dans la Bible et dans la Bible chrétienne, mais il a transformé entièrement le récit. Alors effectivement, je pourrais vous donner les exemples. Il a gommé le passage, à propos d'Abraham et de la circoncision, Moïse au Sinaï, Exode 24, et pour Noé également, il fait tout un développement sur le pacte de non-agression entre Dieu et l'Alliance disparaît entièrement, et c'est le cas pour Abraham et c'est le cas pour Moïse. Alors il gomme et il transforme le récit, selon un procédé d'ailleurs qu'il n'a pas inventé lui-même, car souvent ce qu'on appelle les targumis, c'est-à-dire les traducteurs araméens de la Bible, quand ils étaient en face d'une difficulté, soit d'une difficulté philologique, soit d'une difficulté morale, soit il supprimait le texte, soit il le transformait radicalement. Alors Joseph a utilisé ce qu'on appelle le procédé targumique, c'est-à-dire d'adaptation de traduction araméenne de la Bible, que vous trouvez également dans la Septante. Il faut rendre le texte le plus limpide et le plus transparent possible en fonction des capacités d'accueil qui est celui de la communauté qui va lire. Souvent, ce sont des traditions qui sont implantées plus ou moins oralement dans cette communauté qui vont être perfusées à la place des éléments que l'on va retrancher.
Mais en quoi alors est-ce antichrétien, si je puis dire ?
Mais le mot est un petit peu fort, mais enfin nous sentons quand même une réserve vis-à-vis du terme de l'Alliance qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament, car c'est la Bible chrétienne qui va valoriser et consacrer une fois pour toutes le terme de l'Alliance.
Merci André-Paul. Je rappelle que vous avez publié « Le judaïsme ancien et la Bible » chez Desclés, que d'autre part, les éditions du CERF viennent de rééditer les trois premiers chapitres des Antiquités juives de Flavius Joseph. Et enfin, pour les personnes vraiment érudites, je signale qu'on trouve une bibliographie internationale dans le numéro 3, juillet-septembre 90, de la revue Recherche de sciences religieuses.
C'était Flavius Joseph, général malgré lui, par Roland Auguet, avec la participation de André-Paul. Demain, une vision du peuple juif. Ce sera le quatrième volet de cette série des chemins de la connaissance, proposée une première.
Et tandis que Flavius Joseph inaugurait près de Vespasien une carrière romaine qui allait être sans histoire, au point que nous connaissons fort peu de choses de la fin de sa vie, en plein désert de Judée, les épigones de Jean de Giscala continuent à se battre. Il s'agit des Sicaires qui se sont réfugiés dans la forteresse de Massada, construite par Hérode et réputée imprenable. En fait,
les Romains parviennent à la prendre, mais comme on sait, tous les occupants de la citadelle se sont suicidés pour échapper en particulier à l'amphithéâtre auquel ils étaient destinés. Et lorsque les vainqueurs arrivent au palais, ils trouvent 960 cadavres étendus, groupés par familles entières. Et note Flavius Joseph, les Romains furent remplis d'admiration devant tant de grandeur. Et ceci pose le problème de son regard sur ces jusqu'au boutistes juifs comme Giscala ou Éléazar, qu'il qualifie bien souvent de brigands, Mireille Hadas Lebel.
C'est comme ça qu'il voit effectivement ses compatriotes. Il estime qu'il y a cette espèce de minorité d'excités qu'il appelle des brigands. Il faut toujours bien voir quelles sont les connotations bibliques, parce que caverne de brigands, l'expression est connue par les évangiles, mais en fait c'est une citation de Jérémie. Et très certainement, s'il appelle tous ses ennemis politiques, Jean de Giscala, Simon Bargoras, dont vous parliez, tous ces gens qui ont résisté dans Jérusalem et qui ont conduit à cette résistance folle selon lui et qui ont causé le malheur de toute la population, donc c'est toujours par des références bibliques qu'il les appelle brigands. Il leur en veut terriblement, bien sûr, et il les présente encore des années après dans des termes extrêmement violents. Et comme, malgré tout, il est très marqué par une certaine conception théologique de l'histoire, même s'il raconte l'histoire à la manière des Grecs et des Romains, il cherche une explication de ce malheur. Et ce malheur, c'est que ce sont les crimes des brigands, mais les péchés des brigands qui ont excité la colère divine contre la ville sainte.
Rome n'est que l'instrument d'un comportement défectueux, si je puis dire,
exactement.
De la communauté juive.
Il retrouve cette idée, si vous voulez, le peuple, pour lui, le peuple est toujours élu, mais il est élu de façon tragique, en ce sens que Dieu s'intéresse de si près à lui qu'il ne tolère aucun écart de sa part, et que si faute il y a, le peuple élu est puni, mais 100 fois plus fort que n'importe quel autre peuple. Et en l'occurrence, Rome est la férule de la colère divine.
Si les jusqu'au boutistes sont de mauvais juifs qui attirent le malheur sur la communauté, il y en a pourtant de bons aux yeux de Flavius Joseph, par exemple les Esséniens, André Paul.
Les Esséniens, tels qu'ils nous sont présentés formellement par Joseph, cette fois-ci il s'agit des Esséniens, mais il y a une systématisation dans la description que Joseph fait des Esséniens qui est extrêmement étonnante, car il en fait les meilleurs des juifs. Alors, pour nous, dans notre pensée, ce sont des juifs un peu marginaux. Vous voyez, pourquoi en fait-il les meilleurs des juifs? J'ai l'impression, qu'ayant étudié de près ces textes-là, n'est-ce pas, que Joseph voit chez eux ce que j'appellerais la quintessence de la nation juive, ou de la judéité. Il montre que ce sont eux qui respectent la loi de Moïse, et Moïse qu'il désigne comme le nomothétès, le législateur, dans sa relation avec les Esséniens, donc accentuant leur relation de fidélité au nomothétès Moïse, cela veut dire que les Esséniens n'étaient pas des marginaux ni des déviants. Il accentue ceci. Ce sont eux qui par exemple, respectent le sabbat plus que tout autre. Et ça, c'est extrêmement important aussi dans le contexte romain, où le sabbat commençait cette fois-ci à être supplanté par le premier jour de la semaine qui allait devenir le dimanche, n'est-ce pas? Je pense que cette accentuation du sabbat est aussi à comprendre par rapport à l'institution du dimanche qui s'est faite d'abord à Rome, beaucoup plus, et la rupture vis-à-vis du sabbat s'est faite très 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 vite à Rome, tandis qu'en Orient, nous avons beaucoup de témoignages, jusqu'encore au 4e, 5e siècle, du fait que les chrétiens continuent à célébrer le sabbat, puis le dimanche, il y avait deux jours, mais finalement c'était notre week-end déjà, hein, n'est-ce pas, mais pour l'accomplissement de l'alliance, n'est-ce pas, la relation de testament avec les chrétiens, tandis qu'à Rome, on a coupé très vite. Alors, point très important, c'est celui de la résurrection. Car lorsque Joseph, qui fait des Esséniens un peu le fer de lance de la judéité dans son plaidoyer, lorsque Joseph présente les Esséniens comme une communauté extrêmement soudée, extrêmement forte aussi spirituellement et socialement, il dit ceci, il croyait à l'immortalité de l'âme. Alors ceci est extrêmement passionnant, parce que nous sommes à l'époque où, du côté du juif, dans toute la littérature juive de l'époque, qui est énorme, n'est-ce pas, Par rapport à la Bible, ça se représente, ce que nous avons d'édité actuellement, ça représente peut-être 4-5 fois plus de textes et de volumes. Bien, ce qu'on appelle la littérature des épigraphes et autres, Philon d'Alexandrie. Mais vous aviez, d'une part, un courant qui est représenté par les livres des Maccabées, de 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui va être consacré dans le christianisme. C'est la croyance à la résurrection du corps. Corps et résurrection fonctionnent. Ça va être consacré par le christianisme d'une façon irréversible, hein, et vous le trouvez chez saint Paul. Bon, avec ce qui se trouve de ceci, et ce qui assure le noyau, la croyance à la résurrection du Christ, le tombeau vide, le Christ qu'on n'a jamais vu, donc, et le corps glorieux du Christ ressuscité, assimilé au temple nouveau, au temple céleste, n'est-ce pas? Ça, c'est la croyance scellée une fois pour toutes par le christianisme dès l'année 50. Les années 50, c'est très tôt ceci. Bon, le judaïsme rabbinique va reprendre cette doctrine, non pas celle du Christ ressuscité, mais de la croyance dans la résurrection du corps un peu plus tard, parce qu'ils vont se situer par rapport au christianisme. Mais qu'en était-il du judaïsme assez mouvant d'ailleurs, assez pluraliste, de l'époque de Jésus et antérieur? C'est que vous aviez donc ce mouvement qu'on a appelé plus ou moins à tort, à raison, pharisien, je pense qu'il faut voir de plus près, enfin les pharisiens étaient de cette tendance, croyance à la résurrection du corps, n'est-ce pas? Mais vous avez beaucoup de textes, vous avez le 4e livre de Maccabée, le livre de la sagesse dans la Bible, vous avez ce qu'on appelle des pseudépigraphes ou les apocalypses, comme le livre d'Enoch, le livre des Jubilés qu'on a trouvé à Qumran, qui plaide et qui enseigne, n'est-ce pas, qui plaide pour l'immortalité de l'âme et non pas pour la résurrection du corps. Le corps est enterré et c'est le terme, c'est la fin dernière du corps à ce moment-là. Qu'en est-il de Qumran et des fraternités de Qumran, qu'un peu rapidement, un peu systématiquement, on assimile à des Esséniens? C'est très flou, on ne sait pas trop, mais on a l'impression presque que ces gens-là, probablement, croyaient à l'immortalité de l'âme plus qu'à la résurrection du corps. Alors, quand Joseph parle de la résurrection, il en parle très peu, et d'une façon très floue, c'est à propos des pharisiens, mais très très floue. Par contre, lorsqu'il nous présente une vingtaine de pages de la guerre des Juifs sur les Esséniens, dont, je le répète, il fait la quintessence communautaire et spirituelle du judaïsme. Mais lui qui écrit à Rome, effectivement, il accentue énormément leur croyance dans l'immortalité de l'âme et leur mépris du corps. Alors c'est ici que, si je fais la comparaison entre la doctrine de saint Paul, qui est antérieure, ou même la doctrine des évangiles, qui est à peu près contemporaine, n'est-ce pas? Et ce que me dit Joseph dans le contexte romain, alors c'est là que je dis, bon, je peux peut-être en parlant en langage polémique excessif parler d'antichristianisme, je dirais que, mais il fait pièce, d'une certaine façon, à cette doctrine chrétienne. Je ne sais pas si j'arrive à vous convaincre, mais voilà le type de recherche auquel je me livre, je continue. Alors maintenant, je m'attaque à la question des miracles, n'est-ce pas? Parce que Joseph a écrit sur les miracles, dans l'Ancien Testament, il y en a très peu. Il y a ceux d'Élie et l'Élysée, mais enfin, il y en a d'autres qui appartenaient au folklore juif de l'époque dont il s'est fait le témoin. Effectivement, là aussi, on a beaucoup parlé de rationalisation des miracles chez Joseph. Mais je dirais, mais il faut l'expliquer, cette rationalisation. Pourquoi essaie-t-il de minimiser le surnaturel dans les miracles, effectivement, ou l'aspect merveilleux et miraculeux? Proprement dit, alors là, c'est une hypothèse que je vais vérifier par rapport à ce que j'ai dit tout de suite et qui est le résultat d'un certain nombre de travaux, certainement que nous avons aussi en circulation tous les récits des miracles de Jésus, hein, par rapport auxquels il faut aussi situer un enseignement juif spécifique, quelque chose qui soit l'orthodoxie juive. Je répète, j'ai employé le mot orthodoxie à propos de Joseph. Il essaie de redresser les choses.
Vous écrivez aussi, et cela nous ramène dans le siècle, mais peut-être pas tant que ça d'ailleurs, vous écrivez, André Paul, que c'est un homme qui a la nostalgie congénitale de l'État d'Israël ancien. Et ce que vous venez de dire à propos de l'orthodoxie se relie peut-être à ce jugement que vous portez.
Oui, écoutez, je vais répondre de deux façons à votre question, de façon, je pense, complémentaire. Tout d'abord, Joseph est un peu l'héritier des prophètes. Le prophète Jérémie et Ézéchiel, c'est-à-dire des prophètes de l'exil, des prophètes du moment de la ruine de Jérusalem, lors de la fin du premier temple, en 587, un petit peu avant, un petit peu après. Et il fait écho presque formellement au message de ces prophètes, qui écrivaient dans un contexte où le temple avait brûlé, comme ce sera le cas, ou ce n'était le cas en 70, la fortune, on ne parlait pas comme ça à l'époque, on parlait hébreu ou araméen, n'est-ce pas? Mais enfin, Dieu n'était pas en Italie, mais il était en Babylonie, n'est-ce pas? Quelque part, ou à Babylone, mais la problématique de ces prophètes était exactement la même chose. Ézéchiel fulmine contre les Juifs, contre Sédécias ou les rois qui n'ont pas su arrêter la guerre. Et c'est plein de leçons, n'est-ce pas? Vous connaissez ces langages prophétiques. Et Joseph est un homme d'Ancien Testament, dans le sens où il reprend cette problématique, cette manière d'énoncer les choses, cette philosophie, cette spiritualité, cette idéologie des anciens prophètes d'Israël au moment du premier exil, n'est-ce pas? Bon, là, je crois que c'est un premier élément de réponse. Il est l'héritier prophétique de l'Ancien Testament. Deuxièmement, il tient quand même à sa terre, vous savez. Il tient à sa langue. D'ailleurs, il dit quelque part que les Juifs, ce qui s'est vérifié faux dans l'histoire, les Juifs sont très mauvais pour la langue vivante. Ça veut dire que lui devait pas assez mal parler le grec ou un grand mot le latin, n'est-ce pas? Et d'autre part, qu'il plaidait pour une langue nationale. Je crois que c'était par nostalgie de la langue nationale, qui était la langue du paradis, celle du salut, qui était l'hébreu, la langue du sanctuaire, qu'il parlait ainsi, n'est-ce pas? Et je vous dis, tout le monde sait quelle est la facilité avec laquelle les Juifs, justement, parlent des langues dans l'histoire. Mais, écoutez, si vous le voulez, je vais vous lire un texte, hein, je vais évoquer une citation de Joseph, pour vous dire comment je le vois encore empreint de ce qu'on appelle le credo national de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Vous connaissez l'épisode de Balaam, dans le Livre des Nombres. Bon, Balaam, qui est sur son ânesse, qui est envoyé par le roi de Moab pour maudire les Hébreux qui vont approcher la terre promise. Balaam, au contraire, est pris par l'esprit et bénit Israël et annonce plein de belles choses et la conquête de la terre promise. Or, je peux vous dire, nous avons ici un exemple aussi, ce que j'appelais tout à l'heure le targumisme, c'est-à-dire la traduction araméenne adaptée que nous trouvons dans les Bibles araméennes. Fabius Joseph, voilà comment il traduit la phrase du Livre des Nombres, chapitre 23, verset 10. « Qui pourrait compter la poussière de Jacob? Qui pourrait dénombrer la nuée d'Israël? Puissais-je mourir de la mort des justes? Puisse ma fin être comme la leur ?» Voilà ce que dit Balaam, c'est trois lignes seulement. Et vous allez voir ce que ça va devenir chez le sioniste ou pressioniste ou impérialiste Joseph. Je m'excuse, je vais un peu loin là, mais je porte l'antienne, déjà je résume le message. Voici ce qu'il écrit dans les Antiquités juives pour rendre compte, ou pour traduire ces trois lignes. Bon, effectivement, il y a une page entière. « Ce peuple, alors c'est Balaam qui parle, n'est-ce pas ? Ce peuple est bienheureux, lui que Dieu va mettre en possession de biens innombrables et à qui il accorde pour toujours comme allié et comme guide sa providence. Certes, il n'est pas de race humaine sur laquelle votre vertu et votre passion pour les occupations les plus nobles et les plus pures de crimes ne vous donne de la supériorité. Et c'est à des enfants supérieurs encore que vous laisserez cet héritage. Dieu n'ayant de regard que pour vous parmi les hommes et vous donnant largement de quoi devenir le peuple le plus fortuné sous le soleil. Ainsi, ce pays vers lequel il vous envoie lui-même, vous l'occuperez. Il sera toujours soumis à vos enfants et de leur renommée se rempliront toute la terre et la mer. Vous suffirez au monde en fournissant à chaque pays des habitants issus de votre race. Admirez donc, armée bienheureuse, d'être cette grande progéniture d'un unique ancêtre. Mais c'est la petite partie d'entre vous que contiendra maintenant à la terre cananéenne. Le monde entier, sachez-le, s'étend devant vous comme une habitation éternelle. La plupart, vous irez vivre dans les îles comme sur le continent, plus nombreux même que les astres du ciel. Mais si nombreux que vous soyez, la divinité ne se lassera pas de vous donner en abondance les biens les plus variés pendant la paix, la victoire et le triomphe dans la guerre. Que les enfants de vos ennemis soient saisis du désir de vous faire la guerre, qu'ils s'enhardissent à prendre les armes et à en venir aux mains avec vous, car nul ne s'en retournera vainqueur ou à mesure de réjouir ses enfants et ses femmes. Tel est le degré de valeur où vous élèvera la providence divine qui a le pouvoir d'amoindrir ce qui est de trop et de suppléer à ce qui manque. Bon, c'est un livre 4. Ce texte, d'abord, il est très beau, premièrement, et deuxièmement, je crois qu'il résume bien la doctrine de Joseph, n'est-ce pas? Alors cette fois-ci, évidemment, Dieu n'est pas en Italie.
Ah, étonnant pour un pacifiste.
Oui, mais justement, je crois que le pacifisme de Joseph est à comprendre dans le sens de la vigueur du prophète. Ici, nous trouvons le langage du prophète, n'est-ce pas? Finalement, il fait une description élargie, prophétique, optimiste de la situation du judaïsme de l'époque, et en même temps prophétique dans le sens du relèvement de sa nation, dans laquelle il croit fondamentalement. Et il sait très bien que cette nation ne se relèvera et ne tiendra que dans la mesure où elle vivra en diaspora d'une façon vraiment positive et intéressante. Et sans éviter l'assimilation. Et je crois que là, c'est là sa référence à la terre, n'est-ce pas, est extrêmement importante comme une source permanente de réinterprétation d'un donné qui est celui de la loi de Moïse, n'est-ce pas. La diaspora se définit par le pèlerinage. Et alors, il définit toujours une terre. Bien, pour l'époque, il conçoit ceci comme une terre nationale avec une souveraineté politique, c'est évident, et avec une armée. Bon, je pense que sa prophétie va très loin, d'ailleurs. On peut en faire des lectures, disons, presque actuelles.
Flavius Joseph, qui avait décidé de ne pas écrire de livre d'histoire sur le monde juif après la guerre des Juifs, écrit néanmoins les Antiquités juives. C'est un peu contradictoire, mais cela s'explique. Et il écrit aussi le Contrapion, qui est beaucoup moins connu et dont on peut se demander quelles sont les intentions, Mireille Das-Lebel.
Il montre l'antiquité des Juifs et il répond à certaines calomnies, dont une qui est le meurtre rituel. Il continue d'ailleurs, dans cette voie, puisque son œuvre monumentale, Les Antiquités juives, n'est en fait qu'une œuvre d'apologie. Dans ce grand ouvrage qui fait suite au récit de la guerre, en fait, qui fait suite dans la rédaction, mais qui précède dans la chronologie, il veut montrer l'antiquité du judaïsme, ce qui est un titre de noblesse, et il refait l'histoire depuis la création du monde. Autrement dit, il commence par reprendre le récit biblique en le paraphrasant, en y insérant des légendes qui couraient déjà à l'époque et qui ensuite constituent dans la tradition juive le Midrash, ou bien en revoyant les faits d'une certaine façon en tenant compte de son public, le public grec ou romain, donc en lui présentant par exemple les miracles d'une façon rationaliste. Et lorsqu'il arrive à la traversée de la mer Rouge, il dit oui, ce sont des phénomènes naturels qui peuvent se produire de temps à autre, ça s'est produit également du temps d'Alexandre, donc dans un contexte qui n'était pas du tout sacré. Et d'ailleurs, si le lecteur ne veut pas le croire, qu'il ne le croit pas. Des propos qui nous étonnent énormément sous sa plume. Mais son but essentiel, donc, c'est de montrer l'antiquité du judaïsme, de montrer que le judaïsme a eu de grands hommes, parce que ce que disaient les Alexandrins, c'est que, comme évidemment, ils ne connaissaient pas les grands hommes du judaïsme, ils accusaient les Juifs de n'avoir rien produit. Et donc, toutes ces figures bibliques deviennent autant de héros. En même temps, Joseph fait la soudure entre l'histoire biblique et l'histoire de la guerre. Et c'est chez lui que puissent tous les historiens qui nous parlent de l'époque des Maccabées ou du règne d'Hérode. Sans lui, on ne connaîtrait rien de toute cette période.
On va peut-être revenir à quelques aspects de la biographie de Joseph, mais il y a une question que je voulais vous poser, et précisément, d'après votre livre « Jérusalem contre Rome », je pense que vous pouvez peut-être nous donner une réponse un peu précise. C'est la question de la représentation de l'empereur romain à Jérusalem, et d'une façon générale, parmi les communautés juives, comme à Alexandrie. Comment s'est posé le problème, si vous voulez, puisqu'il semble bien quand même que une des raisons, en dehors des exactions des gouverneurs, il semble quand même qu'il y a eu là, dans cette affaire des prières à l'empereur et puis du culte de l'empereur, si vous voulez, une impossibilité radicale par rapport aux traditions juives. Est-ce que c'est aussi simple que ça, si vous voulez?
C'est tout à fait vrai. Ce que vous dites est tout à fait vrai. Mais il faut ajouter que dans l'ensemble, les Romains ont eu la sagesse de ne pas imposer le culte impérial aux Juifs. Il n'y a eu qu'un empereur qui passe pour fou, Caligula, qui a voulu ériger sa statue dans le temple. Et Caligula est mort fort opportunément parce qu'il était en train de susciter une véritable révolte. La guerre aurait pu éclater, en fait, 30 ans plus tôt, sous le règne de Caligula, si vraiment il avait dressé sa statue dans le temple.
Et ce que je n'ai jamais très bien compris, c'est qu'il était très lié à Agrippa. Je crois que c'était Agrippa
Ier. Il était très lié, oui, au roi Agrippa Ier, effectivement. Agrippa Ier est intervenu auprès de lui. Il y a eu aussi une délégation de juifs alexandrins qui était conduite par Philon d'Alexandrie, qui était venue auprès de Caligula, en fait, pour plaider la cause des juifs dont le droit de cité a été remis en question par les alexandrins à ce moment-là, et qui se sont trouvés devoir plaider une cause bien autrement difficile, puisqu'il y avait ce projet de Caligula. Mais l'alerte a été très courte, en fait, et il y avait sur place, à ce moment-là, un gouverneur du nom de Petronius, qui était très sage, qui n'a pas obéi tout de suite à Caligula, qui lui a même écrit qu'il risquait de provoquer une révolte. Ce que, voyant, en lisant la lettre de Petronius, Caligula lui a aussitôt écrit en lui intimant de s'ouvrir les veines. Mais le messager qui est venu apporter à Petronius la nouvelle de la mort de Caligula est arrivé avant celui qui lui portait la lettre lui ordonnant de se mettre à mort. Donc à ce moment-là, les Juifs ont cru vraiment que la providence divine les protégeait. Mais le problème a rebondi un peu par la suite.
On a parlé de volonté de divinisation sous Adrien, mais alors à ce moment-là, nous sommes déjà plus tard, nous sommes au second siècle. Cela dit, je crois que les empereurs romains ont été très sages, même au moment où le culte impérial s'est répandu à travers tout l'Empire. Ils ont très bien compris que pour avoir la paix dans cette région du monde, il ne fallait pas trop insister sur cette question.
Nous pourrions peut-être, Mireille Hadas-Lebel, avant d'en venir à l'image de Joseph et du christianisme, enfin l'interprétation chrétienne dans le fond de ce qu'a écrit Joseph, je vois que dans votre dernier livre, La Jérusalem contre Rome, il y a un chapitre sur la naissance d'une littérature anti-romaine après 63. Vous parlez d'une altération de l'image de Rome après 63.
Oui, alors attention, il s'agit de 63
avant Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Effectivement, parce que si nous abordons le problème des relations judéo-romaines, et la page la plus connue de ces relations est cette guerre dont nous venons de parler, nous sommes très étonnés de constater qu'en fait, la première rencontre entre juifs et romains, qui se situe à l'époque de Judas Maccabée, avait été très très positive. À ce moment-là, les juifs qui étaient engagés dans la lutte contre les Syriens, c'est-à-dire les Grecs de Syrie, qui avaient pris la suite d'Alexandre, le conquérant dans cette région, qui avait voulu mettre la main donc sur le temple de Jérusalem, d'où soulèvement des Juifs, eh bien, Judas Maccabée, donc, qui était à la tête de ce soulèvement, a songé à demander l'alliance des Romains et l'a obtenu tout de suite. Et il a obtenu un traité d'alliance en bonne et due forme, où les Juifs étaient traités d'amis et d'alliés de Rome. Donc tout a très bien commencé. Et puis tout s'est dégradé petit à petit. Mais il y a quand même eu une étape très importante avant même la guerre, qui a été en 63 l'entrée de Pompée à Jérusalem. Pompée est entré à Jérusalem parce qu'il se trouvait déjà dans la région quand il a été appelé, un petit peu comme dans l'affaire de l'huître et des plaideurs, vous savez, par deux frères rivaux qui visaient chacun la succession de leur mère à la tête de la Judée. Et les Romains, à ce moment-là, ont très bien su tirer leur épingle du jeu. Ils ont réussi à s'installer, à prendre pied dans la région. Pompée a dû faire le siège de Jérusalem pour chasser un des deux prétendants qui s'appelait Aristobule. Et à ce moment-là, sans se rendre compte de ce qu'il faisait, il est entré dans le temple, il est entré dans le Saint des Saints, là où le grand prêtre n'avait le droit d'entrer qu'une fois par an, le jour sacré de Kippour. Il a été très étonné de ne rien y trouver, d'ailleurs. Il n'y avait pas une statue, rien. Et il l'a raconté, mais pour les Juifs, ça a été quelque chose d'abominable. Un sacrilège qu'ils ne lui ont jamais pardonné. Ajoutez à cela que par la suite, les Romains se sont arrangés pour mettre des hommes à eux sur place. L'autre prétendant, Hyrcan, était quelqu'un de très faible, qui en fait était entièrement dominé par son ministre, pourrait-on dire, qui était un Iduméen du nom d'Antipater, et c'est le fils de cet Iduméen Antipater qui a régné ensuite sous le nom d'Hérode et qui a été mis en place par les Romains. Oui. Et les Juifs n'ont pas non plus supporté Hérode. Hérode était appelé le Grand par les païens parce qu'il était en bon terme avec les Romains, parce qu'il avait construit des édifices splendides à travers le pays. Il a même rebâti le temple, qui était beaucoup plus petit que les vestiges que nous en voyons maintenant. Mais il était appelé le méchant par ses sujets. Et méchant, c'est un terme très fort en hébreu, c'est l'impie. Hein.
Donc, manœuvre romaine, dans le fond, pour investir une royauté qui est plus ou moins fabriquée de toutes pièces, avec quand même quelques éléments locaux, si je puis dire. Hein,
Hérode gouvernait quand même. Mais les Romains savaient qu'ils pouvaient entièrement compter sur lui, qu'ils n'avaient pas besoin d'être eux-mêmes directement dans le pays. C'est seulement après la mort d'Hérode et la déposition de son fils que les Romains ont vraiment gouverné directement.
Mais alors, nous en venons peut-être à Flavius Joseph. Bon, pourquoi cette destinée exceptionnelle
de l'œuvre, puisque d'une part il est relativement apprécié par les auteurs chrétiens et d'autre part grande diffusion et grande longévité, si je puis dire.
Oui. Alors ce qui est curieux, c'est que Joseph ne se destinait pas à être historien. Lorsqu'il a écrit l'histoire, il a commencé par écrire pour les Juifs de l'Orient en langue araméenne. Ensuite, il a traduit en langue grecque parce qu'il souhaitait également que les Grecs et les Romains le lisent. Autrement dit, il a écrit pour les Juifs et pour les païens. Et qui a sauvé Joseph de l'oubli? Ce sont des gens auxquels il ne pensait pas du tout, parce qu'ils étaient encore très minoritaires de son temps. Ce sont les chrétiens. De fait, Joseph est très peu connu dans la tradition juive, du moins jusqu'à nos jours, parce que de nos jours, on a accès à ses œuvres, et il est évident que le mythe de Masada est très important en Israël à l'heure actuelle, et il est évident que les archéologues israéliens l'utilisent énormément. Mais jusqu'à une date très récente, il était inconnu ou mal connu, parce qu'on ne connaissait de lui dans la tradition juive qu'une traduction de traduction latine datant du Moyen-Âge, environ du Xe siècle, pense-t-on. Et c'était une traduction qui était loin d'être fidèle, avec grand nombre d'adaptations, de modifications. En fait, l'œuvre même a été préservée par les chrétiens, pour des raisons diverses que je vais vous exposer. D'abord, Joseph disait que Jérusalem avait été détruite à cause des péchés du peuple juif. Il est évident que dans les débuts du christianisme, c'était une idée qui convenait très bien à la propagande chrétienne, puisqu'il y avait un péché que Joseph n'avait pas identifié, disaient les chrétiens, mais qui était évident pour eux, qui était le déicide. Donc, il racontait la famine dans Jérusalem, ou bien donnait de larges extraits de ces passages, en particulier pour montrer la punition du peuple déicide. D'autre part, ils appréciaient volontiers tout ce que Joseph disait de l'antiquité du peuple juif, puisque l'Église se présentait comme le nouvel Israël, et donc reprenait à son compte l'antiquité du peuple juif, ce qui permettait de répondre aux Romains qui disaient que le christianisme était né de la veille, que pas du tout, donc il avait des racines beaucoup plus anciennes. Et enfin et surtout, et là c'est sur, à partir du 4e siècle semble-t-il, on a utilisé un passage qui se trouve au livre 18 des Antiquités, où Joseph vraisemblablement parle de Jésus en disant à propos de Ponce Pilate, de l'époque Ponce Pilate, c'est vers ce temps-là qu'apparut Jésus. Mais à partir du 4e siècle, le texte a dû être interpellé par un pieux chrétien qui, voyant que Jésus était appelé un homme, homme sage d'ailleurs, a dû ajouter, entre parenthèses, si on peut l'appeler un homme, et c'était le Christ. Donc ce passage a été repris dans tous les manuscrits qui nous sont parvenus en grec. On n'a aucun manuscrit grec qui ne le comporte pas. Et ça a donné à Joseph une certaine aura de sacré. D'un côté, on le disait juif, on ne le présentait pas comme un chrétien. Mais d'un autre côté, c'était un chrétien qui, presque malgré lui, avait reconnu le Christ.
Et alors un autre thème, le thème de la trahison. Alors comment est-ce vu d'une façon générale? C'était un problème tellement discutable.
Vous voyez, il y a des choses qui restent comme cela. Lorsque je disais que j'étais en train d'écrire un livre sur Flavius Joseph, donc du côté chrétien, on me disait quelquefois, c'est le seul auteur qui est parlé du Christ. Du côté juif, il arrivait qu'on me dise, quoi, vous écrivez sur ce traître. Alors vous voyez donc l'image qui en est restée. Mais le problème de la trahison, je ne dis pas que je fais l'apologie de Joseph. Au fond, je n'ai pas voulu faire l'apologie de Joseph, j'ai voulu le comprendre. Et j'ai voulu aussi poser cette question par rapport même à la tradition juive, puisque Joseph a ce double qui s'appelle Yohanan ben Zakkai, et nous avons vu qu'il fuit la ville assiégée, qu'il prédit l'empire à Vespasien, et que par la suite il est vénéré presque comme un saint, puisqu'il a perpétué le judaïsme de cette façon. Or, on peut dire que Joseph a perpétué, sinon le judaïsme, du moins l'histoire de sa patrie en survivant. Que s'il a trahi, a-t-il trahi ? Il a voulu vivre, mais a-t-il causé la mort de quelqu'un ? A-t-il dénoncé quelqu'un ? Je n'en ai pas l'impression non plus. J'ai particulièrement soigné les exergues de mon livre, et dans le chapitre où je raconte sa trahison, entre guillemets, j'ai mis en exergue ce morceau de vers d'Horace de Corneille, « Que voulez-vous qu'il fît ?» Vous savez quelle est la réponse du vieil Horace ? Il répond de son fils, dont qu'il il mourut. Croit qu'il a abandonné la bataille, qu'il mourut. Alors, si le lecteur répond qu'il mourut, eh bien ça suppose qu'il ne voulait pas lire l'œuvre de Joseph, puisque la survie de Joseph était la condition de l'œuvre qui nous est parvenue.
C'était Flavius Joseph, général malgré lui, par Roland Huguet, avec la participation de Mireille Hadas-Lebel, la dernière d'une série de 5 émissions des Chemins de la Connaissance de 1991.